Et voici Amusez-vous sur RCF Nice Côte d'Azur, le musée dans tous ses états. Une émission présentée par Nicole Sabag. Bonjour Nicole.
Bonjour José.
Cette semaine, en compagnie de votre invité, vous nous emmenez à Moissartou.
Oui, alors je vous emmène à l'espace de l'art concret à Moissartou. J'ai à côté de moi Alexandra Delis, que je retrouve avec joie. On avait parlé de Bernard Venet.
Tout à fait, pour la précédente exposition.
Voilà, et là c'est tout à fait différent. On va parler de l'exposition qui se déroule actuellement chez vous, qui est consacrée à un photographe qui s'appelle Hans Sylvester et qui présente des photos extraordinaires du ce qu'il appelle les peuples de l'Omo. Alors l'Omo est une rivière éthiopienne, mais je vous laisse la parole un peu pour nous présenter. D'abord, situez-nous le lieu.
D'accord. Donc nous sommes situés à l'espace de l'art concret et l'exposition de photographie de Hans Sylvester est présentée dans la galerie du château, puisqu'en fait l'espace de l'art concret compte deux lieux, donc le château et également un bâtiment moderne qui s'appelle la Donation Albert Sonneger.
Alors là, vous êtes dans une galerie du château, mais je crois que Honegger et Sylvester se connaissent. Enfin, ils se sont rencontrés à l'occasion de cette exposition ou bien avant?
Bien avant, en fait. Bon, Sylvester est d'origine allemande. Notre donateur également est suisse, hein, mais qui parle allemand. Et ils se sont rencontrés il y a quelques années. Et Sylvester, justement, lui a montré ses photos sur les peuples de l'Omo. Et pour Gottfried Honegger, ça a été vraiment un vrai choc, un vrai intérêt. De la part de ces peuples, de cette pratique de peinture sur le corps, puisque Gottfried Honegger a une vision un petit peu d'un art pour tous, d'un art qui ne se limite pas au cadre, en fait, au tableau, mais justement à tous les domaines. Et cette pratique rituelle l'a vraiment intéressé.
Oui, d'ailleurs, le sous-titre de l'exposition, c'est Art populaire, quel avenir? Et c'est une belle question. C'est une exposition qui pose beaucoup de questions indépendamment de la beauté vraiment esthétique et des couleurs de ces photos, c'est magnifique. Alors l'Omo, donc une rivière éthiopienne.
Voilà, donc c'est une rivière en fait qui se situe en Éthiopie. En fait, on va parler plutôt justement de la vallée de la rivière Omo. Et ces peuples en fait circulent le long de cette vallée, hein, qui est en fait longue de 760 km. Donc leur territoire couvre à peu près, 24 000 km. Et ces peuples se comptent au nombre de 12 environ, et ce sont tous des peuples pasteurs qui ont donc un mode de vie semi-nomade. Voilà pour les situer géographiquement.
Alors je crois, même si on n'est pas grand spécialiste de la préhistoire, c'est la vallée du Rift, hein, et c'est le berceau de l'humanité. C'est là où ont été découverts Lucy, Toumaï, enfin voilà, il faut quand même situer, dire que c'est là, c'est important.
Voilà, et d'ailleurs c'est en fait la rencontre de Hans Sylvester avec ses peuples s'est faite à cette occasion, puisqu'il était parti au départ pour faire une mission photographique sur ses recherches archéologiques de Lucy. Et au détour d'une route, il a rencontré plusieurs personnes qui faisaient partie d'une tribu. Et tout de suite, il a décidé de finir plus rapidement son autre mission pour se consacrer à ses peuples.
Oui, et j'ai lu qu'il était resté pendant 6 ans.
Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y retourne très fréquemment. En général, ce sont des missions qui durent à peu près un mois. Et donc, il fixe plusieurs rendez-vous avec eux et ensuite, ils se retrouvent à différentes périodes de l'année, en fait.
Alors donc, ces peuples semi-nomades, hommes, femmes, se peignent le corps. Alors, ils se peignent le corps, c'est bien entendu, ça a une signification au-delà de la peinture. C'est, je sais pas, c'est initiatique, c'est culturel, c'est tout ce qu'on peut y...
Oui, alors en fait, il y a deux aspects. Ce qui se passe, c'est qu'on a retrouvé, on est sûr hein, qu'ils se peignaient le corps depuis 200 ans. Auparavant, on ne peut pas être sûr, comme en fait, ils n'ont pas d'alphabet, pas d'écriture. Il n'y a pas de trace écrite.
Il n'y a pas de mémoire.
Voilà. Donc, en fait, dans cette pratique, il y a deux aspects. Il y a un aspect rituel. Tout dépend des couleurs qui sont utilisées, puisque dans la vallée du Rift, il y a des terres volcaniques. Il y a différentes sources de couleurs, hein, puisque ce sont des couleurs naturelles, bien évidemment. Donc, ils sont issus des ocres, de la terre, de l'argile, du kaolin, mais aussi, par exemple, avec la bouse de vache. Et tout dépend de quel matériau est employé. On va, par exemple, se peindre pour un aspect de séduction, On va aussi se peindre quand on fait référence à un aïeux, quand on porte le deuil, ou dans d'autres étapes de la vie, comme le mariage, etc. Et il y a un autre aspect qui est aussi, qui s'est développé plus récemment, on va faire une surenchère, etc., de motifs, hein, comme on peut le voir dans l'exposition, à des moyens vraiment de séduction.
Alors, est-ce qu'il y a également des pratiques de scarification ou d'incision? Oui.
Tout à fait, tout à fait. Il y a des pratiques de scarification pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Pour les hommes, ça peut signifier un combat, hein, qui a été mené à bien. Pour les femmes aussi, comme pour d'autres périodes de la vie. Scarification qui sont faites en fait avec des épines ou des lames de rasoir. On surélève la peau et ensuite il reste une petite trace, voilà. Mais ce qui est très important aussi, outre ces scarifications et peintures, ce sont les femmes qui portent des plateaux à labrer. Donc en fait, ce sont les plateaux d'argile dans la lèvre inférieure, qui est un signe aussi de beauté. Mais également, il y a une grande importance de la parure, notamment les bijoux.
Alors on va écouter un petit peu de musique avant de retourner sur les bords de l'Omo. Et j'ai eu un peu de mal, je l'avoue, mais j'ai trouvé à la médiathèque de Cannes un disque de musique éthiopienne. Alors on va écouter quelques notes de cette musique. Il faut vraiment fermer les yeux et imaginer qu'on est là-bas parce que c'est une musique à laquelle on n'est pas habitué.
Vous écoutez RCF Nice Côte d'Azur, amusez-vous, le musée dans tous ses états nous propose cette semaine un voyage en Éthiopie avec escale à Moinsartou. Nous retrouvons tout de suite Nicole Sabag et son invité.
Oui, la route de l'Éthiopie passe Moinsartou et elle passe par RCF. Donc nous étions en train d'écouter cette musique, je ne sais pas chez vous ou chez nos auditeurs, mais on imagine les couleurs, enfin on imagine ce paysage, le désert, cette musique est tout à fait propice hein, pour ça. Alors revenons à l'exposition, donc et quelques mots sur ce photographe, parce que c'est quand même un artiste indépendamment des photos.
Tout à fait, en fait c'est plus généralement un photoreporter, il est d'origine allemande, mais ça fait une bonne trentaine d'années qu'il s'est installé en Provence, en fait, dans le Luberon, et il a fait des reportages photographiques qui sont souvent axés, on le remarquera, sur des préoccupations écologiques, ou alors justement ces notions de patrimoine culturel. Il a notamment suivi des femmes au Rajasthan pendant de nombreuses années.
Chevaux en Camargue aussi, j'ai lu.
Les chevaux en Camargue aussi, voilà, vraiment il est attaché, on va dire, à des notions générales de patrimoine et aux identités locales que chacun peut développer. Ouais.
Oui, un petit peu, enfin je ne vais pas le comparer, mais c'est comme Yann Arthus Bertrand.
On va dire que Hans Sylvester est Yann Arthus Bertrand, mais lui il a commencé beaucoup plus tôt. Hein, voilà. C'est un des premiers photographes qui était dans cette idée. Voilà.
C'est un homme de quel âge?
Il a 68 ans, oui, tout à fait.
C'est jeune.
Ouais, 68 ans, il est très jeune et puis il continue vraiment à mener ses missions à bien. Hein. Je pense que c'est vraiment une vocation.
Et puis c'est important, je veux dire, on a besoin de... Parce que cette exposition, je le disais, bon, elle est magnifique à regarder, mais elle pose beaucoup de questions, je veux dire, sur la survivance d'une part de ses coutumes et puis d'un monde qui est... faut pas être pessimiste, c'est pas un monde qui est en train de disparaître, mais qu'il faut surtout pas oublier.
Voilà, c'est ça, il faut pas oublier. En fait, il rend compte hein, de ses pratiques. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces pratiques ont évolué aussi avec le temps, aux rencontres, on va dire, de touristes aussi également. Par exemple, avant, il fabriquait des colliers, mais avec des graines séchées. Et maintenant, au fur et à mesure qu'ils rencontrent d'autres personnes, ils peuvent avoir des vraies perles, etc. Donc, leur pratique aussi évolue, tout en étant en sauvegarder.
Et les photos sont des photos de grand format. Et il y en a une qui est notamment impressionnante. Il faut dire que l'Omo se situe, je crois, à la frontière du Kenya, du Soudan, pas loin du Darfour.
Au sud-ouest.
Voilà, ouais. Et il y a une photo impressionnante avec une Kalachnikov. Alors là, c'est les deux antagonismes qui se rencontrent. Ouais, enfin, ouais.
C'est à cause de la guerre du Soudan, voilà, en fait, ouais. Avec les réfugiés. Depuis une vingtaine d'années, ils ont eu accès justement au Kalachnikov. Et ce qui est assez troublant pour nous, c'est pas un usage, on va dire, guerrier de cette Kalachnikov, même si c'est une culture guerrière, ils ont la culture de la donga, c'est une danse rituelle traditionnelle avec un bâton. Mais la Kalachnikov, pour eux, c'est plutôt une espèce de trophée. Ils le voient comme ça, à la manière d'un ornement. Et d'ailleurs, je pense que c'est la photo dont vous faites allusion. Quand on voit la photo avec la Kalachnikov et la peinture qui se trouve sur le corps, il y a totalement un rapprochement formel entre les deux. Donc on est vraiment dans une idée d'ornement. Et si on regarde bien la Kalachnikov de plus près, elle aussi est décorée par d'autres ornements, tels que des petits morceaux de fil, etc. Donc on est vraiment dans une surenchère de décoration et d'esthétisme partout. Voilà.
Et quelques textes brefs accompagnent ces photos, et les textes sont de Gottfried Honegger. Ce sont des questions, en fait, ouais. Et c'est à nous d'apporter les réponses, hein, c'est notre devoir.
Voilà, c'est un petit peu des questionnements pour nous aider justement à nous questionner face à ces pratiques. Voilà.
Et Gottfried Honegger, il faut le rappeler, il a 92 ans.
92 ans, oui, bientôt 93, et voilà. Et lui aussi a toujours un rôle actif au sein de notre espace.
Alors, il faut rappeler donc cette exposition qui dure jusqu'au 4 octobre. Vous avez encore un petit mois pour aller la voir. Et vraiment, ne ratez pas, vous allez au château de Moinsartou. Moinsartou, c'est facile, c'est fléché, vous trouvez. Et ce sont les horaires d'hiver, je crois, maintenant.
Alors oui, on est ouvert donc du mercredi au dimanche inclus, de midi à 18h, voilà. Nous avons également une conférence de l'artiste Jean-Luc Vernat, donc le jeudi 24 septembre à 18h, voilà. Donc il va nous parler de sa pratique sur le corps. Lui aussi c'est un artiste qui a une pratique de tatouage, etc. C'est un artiste contemporain, mais c'était pour ouvrir un petit peu l'exposition à d'autres champs, voilà.
Alexandra, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Rendez-vous pour la prochaine exposition.
Très bien, merci Nicole. À bientôt.
Au revoir.